l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à Belmont-sur-Ance, 93.1.
Et c'est toujours un grand plaisir de se retrouver entre 12h et 13h pour ce Présence Midi. Soyez les bienvenus. On respire enfin, ça fait du bien d'avoir un peu d'air frais. Alors c'est avec cet air frais que nous allons débuter ce magazine. Dans quelques instants, on va vous faire découvrir ou redécouvrir peut-être le meilleur de cette saison radiophonique de 2025-2026 avec aujourd'hui le CMR Chrétien Monde Rural qui sera à l'honneur lors de leur grande assemblée générale. Eh bien, notre ami était présent, Benoît Guillard, bien sûr, vous l'avez reconnu dans la chronique verte. Et puis, on va parler d'un sujet douloureux, en deuxième partie, avec vendredi dernier, à Ciné 32, une soirée était consacrée au thème des violences sexuelles faites aux enfants, avec la présence de la réalisatrice et artiste Andrea Bescon, connue pour son engagement militant, avec son film Les Chatouilles, écrit et réalisé par Éric Métayer. Ça retrace sa propre histoire de jeune fille abusée par un ami de la famille. Nous aurons le plaisir d'avoir Romain Sabatier, membre du planning familial et partenaire à cette soirée, et Andrea Bescon, donc la réalisatrice. Ils seront tous au micro de Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers. Et puis on parlera aussi d'un sujet douloureux, celui des immigrants qui sont venus d'Indochine pendant quelques années en France, arrivés par bateau, et même pendant la traversée, pendant plus d'un mois, ils étaient dans les cales sans voir le jour. Tout cela, nous le découvrirons dans Un jour, un livre, un auteur. Mais pour l'heure, on retrouve l'essentiel de l'actualité. Bonjour.
L'État pourrait investir 5 millions d'euros supplémentaires pour soutenir le projet de reprise de l'usine de pâte à papier Fibre Excellence à Saint-Gaudens. Placée en redressement judiciaire depuis fin avril, elle emploie 270 salariés. La canicule continue de peser sur les cultures. Dans le Tarn-et-Garonne, la récolte des prunes a commencé en avance. Les vergers produisent moins de fruits et certains ont été brûlés par le soleil. En revanche, les prunes sont plus sucrées cette année. Près de Toulouse, une jeune girafe de plus de 2 mètres est arrivée au parc African Safari de Plaisance-du-Touche. Après une période d'adaptation, elle sera présentée aux visiteurs. L'université chrétienne d'été débute aujourd'hui à Castanet-Tolosan. Jusqu'à vendredi, conférences et tables rondes sont proposées autour du thème « La paix aura ton visage ». En sport, le quadruple champion olympique Léon Marchand déclare forfait pour la fin des championnats de France de natation en raison d'une blessure à un adducteur. Enfin, le Stade toulousain célèbre son 4e bouclier de Brennus consécutif avec un maillot en édition limitée.
Merci beaucoup à Clémence Roux, qui est étudiante à l'école de journalisme de Toulouse. On la retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour le flash de la mi-journée. Et puis bien sûr, à 13h, ça sera toute la rédaction de Radio Vatican qui sera en notre compagnie pour l'actualité, cette fois-ci nationale, mais surtout internationale. Allez, moi je vous propose qu'on s'expatrie dans notre région avec notre correspondant qui aujourd'hui a été globetrotter, Benoît Guillard, qui va nous faire découvrir le CMR. C'était une interview qu'il avait fait il y a quelques semaines.
Présence à Aurignac, 94.1.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouverons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, je suis loin des Hautes-Pyrénées. J'ai traversé les Pyrénées, le Massif central, pour arriver dans la Loire, un petit village qui s'appelle Nandax. Et j'ai fait ce long déplacement tout simplement pour vivre la Journée nationale et l'Assemblée générale du mouvement chrétien dans le monde rural. Et donc j'ai l'honneur de recevoir à mon micro les deux coprésidents et l'animateur national de ce mouvement. Et j'avais vraiment, chers auditeurs, envie de vous faire connaître, ou connaître encore mieux, le mouvement CMR. Alors nous avions abordé ce mouvement déjà l'année dernière, au travers du Festival Rural. Et donc, bien sûr, on reviendra un petit peu sur cet événement qui a été le Festival Rural. Mais bon, aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de vous parler vraiment de l'engagement, de la ruralité et de l'espérance avec le mouvement chrétien dans le monde rural, tout en sachant que c'est aussi une nouvelle équipe qui se met en place, et puis dans la dynamique du Festival Rural. D'abord un petit peu de portrait, de connaître, de connaissance. Donc j'ai autour de moi trois personnes. On va commencer par les dames. Donc on a la coprésidente ici présente, Annick Flick. On a Laurent Misando, coprésident. Et on a Antonio Silvera, qui est l'animateur national. Alors tout simplement, est-ce qu'à tour de rôle vous pouvez présenter? On va commencer par les dames, en quelques mots.
Voilà, donc je suis Karine Flick, j'habite en Alsace et je suis engagée au CMR depuis une vingtaine d'années.
Merci Karine. Laurent.
Laurent, j'ai 51 ans et j'habite en frontière Maine-et-Loire dans le rural et je suis professeur des écoles.
Merci Laurent. Antonio.
Alors Antonio Silvera, donc je suis le coordinateur national du CMR et je suis originaire d'un petit village dans le département de la Loire.
Alors, est-ce que vous pourriez nous dire à chacun quel est un petit peu votre lien avec le monde rural et pourquoi vous avez accepté aujourd'hui cette mission de coprésidence ou de coordinateur national du mouvement, Karine?
Alors, je suis, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis au mouvement depuis quelques années et j'étais en équipe et j'avais envie de découvrir une facette du mouvement national. Et voilà, donc voilà ma place.
Merci Karine. Laurent.
Moi je suis natif d'Angers et en fait en tant que professeur j'ai été envoyé dans les territoires ruraux dans des écoles à deux ou trois classes. Donc pour moi ça a été une réalité et j'avais besoin d'être aligné au niveau de ma foi.
Merci Laurent. Antonio.
Alors moi mes parents étaient agriculteurs au Portugal et puis quand ils sont arrivés en France, ben ils ont changé de métier et j'ai vécu pendant très longtemps dans un petit village de 1600 habitants à côté de Saint-Étienne où j'étais un acteur dans le village pour faire du développement local.
Laurent, peut-être nous rappeler un petit peu quelles sont la mission ou les missions du mouvement chrétien dans le monde rural aujourd'hui.
Alors c'est favoriser le vivre ensemble dans les territoires ruraux par le biais de petites équipes avec qui on chemine, avec des accompagnateurs ou un accompagnateur, et puis mettre aussi en place des temps forts et des événements pour que les gens puissent se retrouver dans cette façon de croire et de prier.
Et donc ces équipes sont réparties par territoire, donc c'est des fédérations si j'ai bien compris, Karine ?
Oui, donc sur toute la France, il y a des fédérations et chaque fédération est composée de petites équipes, de gens qui se retrouvent.
Antonio, à peu près combien d'adhérents au total on peut compter sur la France pour le mouvement ?
Alors on compte environ 6500 membres sur l'ensemble du territoire national, répartis en une soixantaine de fédérations départementales et environ 700 équipes locales.
Donc effectivement, c'est un mouvement qui compte sur la France et qui pèse et qui est inscrit dans l'Action catholique. Et donc peut-être quelques mots un petit peu pour expliquer un petit peu l'équipe, comment vous fonctionnez, cette nouvelle équipe, puisque bon, deux coprésidents qui viennent là maintenant gouverner le nouveau voilier, c'est ce que j'ai bien compris ce matin dans le contexte. Donc peut-être aussi expliquer comment vous fonctionnez en termes de gouvernance. Il y a une équipe nationale, il y a un conseil d'administration, et puis peut-être nous parler aussi de l'idée des équipes d'accompagnement territorial. Laurent ?
Oui, alors il y a un conseil d'administration de 14 administrateurs qui viennent des différentes fédérations de la France. Et puis nous travaillons avec 4 richesses humaines qui se regroupent sur Paris. Donc nos conseils d'administration ont lieu sur Paris, c'est plus facile au niveau de la mobilité, surtout pour nous au niveau du rural. Et puis le trio, et puis le bureau, on essaye de mettre en place cette gouvernance partagée.
Donc les équipes d'accompagnement territorial, donc ça c'est une émanation, c'est une idée nouvelle, tirée un petit peu de l'expérience du Festival Rural.
Déjà un peu avant le Festi Rural, on s'est rendu compte qu'on se retrouvait en équipe, mais c'était difficile de faire le lien, et donc on a mis en place Aller Vert, et donc le Festi Rural aussi nous a renforcé cette idée des équipes territoriales pour être au plus près des gens dans les fédérations, dans leur équipe.
Très bien. Alors justement, puisqu'on parle du Festi Rural, on va revenir un petit peu sur cet événement qui était un magnifique événement. Peut-être simplement vous demander à tour de rôle ce que vous avez envie de retenir aujourd'hui, à froid, de ce Festi Rural. Et puis aussi, ce que ça a un peu révélé en vous, ce temps de partage, ce temps de vie, et ce qui vous a marqué. Et on va commencer par Laurent.
Alors moi, c'est vraiment la bienveillance et l'espérance qui a été vécue pendant ces 3 jours avec 1500 personnes. Et donc, ça fait du bien, ça ressource et puis ça réactive notre énergie pour pouvoir aller sur nos territoires ruraux.
Et des attentes nouvelles puis ce Festi Rural, Laurent ?
Alors le CMR, au niveau de cette dynamique, c'est important de savoir, reconnaître qu'il y a des personnes sur le territoire, dans les sociétés et puis les paroisses, des personnes qui sont comme nous et qui nous ressemblent et qui œuvrent pour la même chose, rendre la société plus humaine.
Karine, même question, ce que vous voulez retenir du Festi Rural et puis si ça a révélé pour vous des attentes par rapport au monde rural ?
Alors, pour moi, je retiendrai la joie. La joie, on a vécu 3 jours de joie. Je pense que ça a mis en avant des sujets par rapport à la ruralité, que ça soit en agriculture. Ça donnait une nouvelle dynamique pour notre mouvement.
Merci Antonio. Ce sera pas la même question Antonio. Ce sera justement un moment ou un témoignage qui vous a marqué, vous, en tant que grand coordinateur, grand animateur de ce festival.
Il y en aurait beaucoup, hein, mais je crois que ce qui m'a marqué, c'est les visages des différents participants, la joie qu'ils avaient, l'envie d'aller, de tout voir en même temps, de d'échanger entre deux, et surtout de se dire qu'on pouvait agir pour changer la société, changer le monde rural, et donc cette volonté en fait d'aller plus loin et de continuer à être acteur là où on est. C'est ça un peu qui m'a marqué dans l'expression et le visage des participants.
Merci. Alors aujourd'hui, on est aussi là pour les journées nationales, et en particulier, vous avez tenu ce matin votre assemblée statutaire au niveau du mouvement chrétien dans le monde rural. Et donc, en général, c'est des moments où effectivement, on essaie de partager un petit peu des regards et porter une vision. Et j'aurais envie de vous demander un petit peu quel est le cap ? Quel est le cap du voilier que vous souhaitez donner ou maintenir pour ce mouvement, Laurent ?
La présence de l'Action catholique qui peut mettre en place des temps, des événements pour vraiment libérer la parole, pour pouvoir débattre. Ces lieux d'échange sont très importants, surtout avec la perspective des présidentielles 2027.
Alors, puisqu'on parle aussi de fraternité, Karine, j'ai envie de vous poser cette question-là. Les jeunes, comment peut-on faire pour faire venir les jeunes dans ces mouvements d'Action catholique aujourd'hui, puisque c'est la question que tout le monde se pose?
Oui, alors les jeunes... se retrouvent peut-être moins souvent en équipe parce que ils ont d'autres occupations, mais on s'est rendu compte en faisant des visios pour les 30-50 ans que le nombre de jeunes augmente, que cette façon de faire correspond peut-être, et donc il faut trouver des nouvelles façons de réunir les jeunes.
Et j'oserais poser la question, Laurent, avec votre regard et votre expérience, en quoi les équipes CMR sur les départements, sur les territoires, sont vraiment utiles dans nos territoires ruraux ?
On est chrétien dans le monde rural. Et je pense qu'il ne faut pas oublier ce mot chrétien. Et pour pouvoir avancer en suivant le Christ, il nous faut nous poser, nous asseoir, pour pouvoir réfléchir et mettre en alignement nos actions avec la lecture de l'Évangile. Voir, discerner, agir.
Et alors Antonio, pour être très pratico-pratique... comment on peut rejoindre le CMR aujourd'hui? Un auditeur, il nous écoute, ça lui parle, ça le touche au cœur, ça l'appelle. Comment il peut rejoindre ce mouvement?
Alors, la première chose, c'est de rejoindre les équipes locales, les équipes départementales. On a un site internet, unchrétienruraux.fr. Donc là, on peut trouver aussi les coordonnées pour nous joindre. Mais on invite les auditeurs à aller sur notre site et puis à prendre contact avec les fédérations départementales.
On arrive déjà à la fin. Donc, en général, la fin, je finis toujours par un mot plus personnel de chacun. Un petit peu pour que les auditeurs retiennent bien les choses qu'on souhaite leur faire passer. Et en particulier, justement, chacun, un petit peu, quel message vous souhaitez adresser à nos auditeurs, tout simplement. Et éventuellement, quelle invitation vous auriez envie de leur envoyer ?
Alors, de nous rejoindre, moi j'aime bien l'évangile des compagnons d'Emmaüs, car franchement c'est la mise en mouvement. De quoi parliez-vous sur le chemin ? On discerne, on mange ensemble, et après on retourne pour dire « il est vraiment vivant ».
Merci. Karine ?
Pour moi, le CMR, c'est vraiment un moment où je peux partager avec d'autres sur ce qui me tient à cœur et à la lumière de l'évangile. Et donc, ça fait du bien dans ma vie d'être en équipe.
Merci. Antonio ?
Pour moi, c'est d'être acteur là où on est dans notre vie quotidienne, acteur dans la société et acteur dans l'Église, pour faire aussi bouger les choses à la lumière de l'Évangile.
Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, vous l'avez bien compris, le rural n'est pas un lieu de repli, mais bien un espace d'avenir. Et donc, le CMR, justement, c'est l'incarnation de cet espace d'avenir. Donc, si on vous a donné envie... Osez aller sur le site internet, osez vous renseigner pour aller au contact des équipes en place et vivre une spiritualité qu'est la spiritualité du CMR. En tout cas, merci à vous trois, merci pour votre présence et votre invitation. Et puis, écoutez, à la prochaine fête. Au revoir.
Au revoir.
Voilà, le CMR Chrétien Monde Rural qui était à l'honneur grâce à Benoît Guillard. C'était une émission qui a été enregistrée il y a quelques semaines. Nous allons parler d'un sujet douloureux. D'ici quelques instants, on va partir pour cela dans le Gers. Nous allons parler des violences sexuelles faites aux enfants.
Présence aux portes du Tarn, 97.9.
Je ne sais pas où aller pour tomber sur tes pas, si c'est dans la ville où je suis né ou tout près de chez moi. Je ne sais pas deviner à quoi ressemble ta voix, et j'ai voulu l'écouter plus d'une fois. Mais quand on se verra un jour ou l'autre, mais quand tu seras là, sur tes doigts, au mieux il nous arrive de poser nos mains au même endroit. Je ne sais pas où chercher, mais j'ai compris parfois que j'aurais dû regarder devant moi. Mais quand on se verra un jour ou l'autre, mais quand tu seras là,
Radio Présence à Sévrac-le-Château.
Vendredi dernier à Ciné 32, une soirée était consacrée au thème des violences sexuelles faites aux enfants avec la présence de la réalisatrice et artiste Andrea Bescon, connue pour son engagement militant. Son film « Les chatouilles », écrit et réalisé avec Éric Métayer, retrace sa propre histoire de jeune fille abusée par un ami de la famille. En première partie de soirée, un hommage a été rendu à Liana et à ses enfants tués récemment, Ambre, Emma, Chloé, Jade, Lorenzo, suivi par une minute de silence. Était présent à la soirée la librairie Les Petits Papiers, Amnesty International Auch, le Café Féministe Auch, le CIDFF, Sud Solidaire, la CGT. Je vous propose d'écouter Romain Sabatier, membre du planning familial, partenaire de cette soirée. Il est au micro de Pauline Cazier.
On a voulu marquer le terrain après le terrible drame de la mort de Liana et montrer qu'il y a des ressources localement qui pensent ces sujets et qui travaillent sur le terrain depuis des années. Et ça nous a semblé important de montrer aux Gersois et Gersois que voilà, il y a des ressources pour écouter, pour s'éduquer, pour parler à ses enfants, pour mieux repérer, mieux signaler. Et donc on a voulu inviter toute la chaîne de prévention et de traitement de ces sujets. Et on a un peu avec un rêve en tête, parce qu'on ne pensait pas cela réalisable en 15 jours, inviter Andrea Bescon, et je dois dire qu'on a été bluffé par sa générosité parce qu'elle a de suite accepté, et ça a aussi entraîné tout un collectif de partenaires associatifs qui ont été là avant la projection pour mettre à disposition des ressources et informer les gens. Et puis il y a eu cette projection et le débat en suivant. Et donc voilà, merci beaucoup à l'ensemble des associations du Gers qui se mobilisent et qui vont continuer à se mobiliser tous les lundis à 19h devant le tribunal pour demander une loi intégrale pour changer les choses.
Justement, les partenaires, il y avait... Expliquez-nous qui y avait.
Ouais, alors le planning familial est à l'initiative, mais il y a la Ligue de l'enseignement, le Centre d'information des droits et des familles, les syndicats, la CGT, Sud Solidaire, il y avait Amnesty International, il y avait, j'en oublie, le Café Féministe, j'en oublie sans doute, le Ciné 32 qui nous accueille, la librairie Les Petits Papiers aussi, parce que ça participe de l'éducation populaire. Voilà, voilà pour les types de partenaires qu'il y avait là au village ressources.
Et les actions à venir le 4 juillet, je crois.
Lundi prochain, nouveau rassemblement à 19h devant le tribunal d'Auch. Une manifestation le samedi 4 juillet. Et puis donc à 10h du matin à Auch, manifestation le 4 juillet en famille, venant pour demander le respect des droits des enfants et la protection des enfants, et qu'on avance ensemble vers une meilleure protection des enfants. C'est encore extrêmement dépendant des bonnes volontés individuelles, et c'est pas cela qu'il nous faut, c'est un changement de paradigme, un changement de vitesse, un changement d'échelle, et il nous faut vraiment des moyens forts pour qu'on forme massivement les professionnels, pour qu'on fasse de la prévention auprès des parents, auprès des enfants, et ensuite aussi que, bien sûr, quand il y a révélation de faits, des policiers, gendarmes, des tribunaux spécialisés puissent prendre cela en charge.
Et alors, il y a eu l'électrochoc avec Liana. Est-ce que vous pensez que la mobilisation continuera? Je crois qu'on a dit qu'on laisse passer l'été, puis à la rentrée, ça reprend. Vous avez espoir, j'imagine, j'espère.
Justement, le passé nous a montré que le soufflet pouvait retomber. Et là, l'objectif, c'est de se donner rendez-vous. Effectivement, lundi prochain, le 4 juillet, et puis le 7 septembre déjà, pour reprendre les lundis et faire pression avant l'examen de la proposition de loi intégrale début octobre à l'Assemblée nationale.
Voilà, à l'instant, c'était Romain Sabatier, membre du planning familial et partenaire de cette soirée. On écoute maintenant Andrea Bescon, la réalisatrice.
J'ai vécu ça, moi, quand j'étais petite. Et quand j'en ai pris conscience vraiment, que j'ai porté plainte, et qu'ensuite même j'ai fait le spectacle, c'était... On n'en parlait pas. Donc,
parle de 2006.
Alors, 2006, la condamnation de l'agresseur. Bon, miraculeusement, ils sont pas très nombreux à être condamnés. Mais et le spectacle, j'ai fait en 2014. Et le film est sorti en 2018, donc juste après MeToo. Et je me suis confrontée à ce tsunami de témoignages, et là on s'est rendu compte qu'on était très très nombreux à avoir vécu les violences sexuelles dans notre enfance. Donc évidemment, c'était quelque chose de déterminant dans ma vie, de rentrer dans cette sensibilisation, dans ce militantisme autour de la culture du viol, des violences faites aux mineurs. Et voilà. pourquoi je suis là aujourd'hui à Auch, ce soir à Auch, après l'horrible mort de Liana, par cet homme qui était déjà connu de la justice. Donc voilà, on est tous tellement en colère et que j'avais envie d'être là quand on m'a proposé de venir. J'ai dit oui tout de suite.
Il y a une vous avez appelé à une mobilisation des citoyens, mais il y a, selon vous, une absence du politique.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, pour obtenir une vraie politique publique, il faut que, malheureusement, on est obligé d'aller la chercher. Donc la mobilisation citoyenne est indispensable. J'appelle les citoyens et les citoyennes à se retrouver à 19h devant les tribunaux de France ou devant les mairies, quand un tribunal est trop loin, et notamment aussi à Paris, devant le ministère de la Justice, de manière à vraiment engager le gouvernement dans le mouvement de faire voter la loi intégrale contre les violences sexuelles, contre les violences en règle générale d'ailleurs, faites aux enfants et faites aux femmes. Il y a une coalition de 150 associations qui ont travaillé dans l'écriture de cette loi. C'est un magnifique début à une ère de lutte contre les violences, et on y tient particulièrement aujourd'hui puisqu'on voit qu'il y a une indignation totale en France qui est tout à fait légitime.
Vous êtes le porte-parole, enfin, je vous dis ça, vous pensez être vraiment, enfin, j'emploie le mot porte-parole, mais oui, c'est vrai que là, on vous sent investi depuis des années, et pour vous, peut-être, c'est encore un mur, une montagne à escalader pour arriver à avoir des avancées dans ce domaine.
Ah oui, mais en fait, on est plein de porte-paroles. C'est ça qui est incroyable. Ça fait des années que les victimes témoignent. Avant moi, il y a eu plein d'autres personnes. Il y a eu Christine Angot, il y a eu Eva Thomas, puis ensuite Flavie Flamand, Vanessa Springora, Camille Kouchner, Lies Loufoque. Enfin, on est très nombreux à parler. Judith Godrèche. Enfin, je veux dire, c'est énorme, quoi. Donc, nous, on parle pour que ça change, en fait. On parle pas pour qu'on nous dise qu'on est courageux ou même des porte-parole. En fait, on s'en fout de ça, notre image. Nous, ce qu'on veut, c'est que les enfants ne subissent pas de violences sexuelles et ne subissent pas l'impunité des agresseurs. Et c'est en ce sens qu'on se bat, vraiment.
Une dernière question, Les Chatouilles, votre film, vous faites le tour de France avec, pour montrer la réalité, parce qu'on vraiment, on sort de ce film vraiment bouleversé, moi je dois le dire.
Bah, en fait, il est sorti en 2018, alors à l'époque de la sortie, j'ai fait beaucoup d'avant-premières, etc. Et j'aime bien quand les municipalités m'appellent, pardon, et que j'ai l'occasion, parce que bah, évidemment, comme tout le monde, je travaille, j'ai une famille, etc. Donc, dès que je peux, je fais des soirées comme ça, débat où je viens discuter avec le public après le visionnage du film. Et je rencontre aussi les acteurs et les actrices de terrain de lutte contre les violences. Et ça m'intéresse beaucoup parce que je pense que de toute façon, cette lutte-là, c'est une lutte tout à fait collective et tout à fait citoyenne, et que l'effort viendra de la société civile avant l'effort politique, malheureusement. Mais en fait, malheureusement, cette responsabilité-là nous incombe, et il n'y a que comme ça qu'on les poussera à mieux prendre en charge ce fléau.
Voilà, à l'instant, c'était Andrea Bescon, la réalisatrice du film Les Chatouilles, écrit et réalisé avec Éric Métayer. Un grand merci à Pauline Cazier pour ce reportage. Un grand merci à Pauline Cazier, notre correspondante dans le Gers, pour ce reportage.
Radio Présence à Pau, 96.
Et on poursuit avec l'actualité dans notre région, en compagnie de Clémence Roux. Bonjour Clémence.
Bonjour à tous. Dans l'actualité régionale, l'État est prêt à renforcer son soutien au projet de reprise de Fibre Excellence à Saint-Gaudens. Le groupe de Pâte à Papier est en redressement judiciaire depuis le 27 avril dernier et emploie 270 salariés à Saint-Gaudens. Le gouvernement pourrait investir 5 millions d'euros supplémentaires pour accompagner le plan de financement. La canicule, elle, continue de peser sur les cultures. Dans le Tarn-et-Garonne, les producteurs de prunes ont commencé leur récolte avec plusieurs jours d'avance. Résultat, moins de fruits dans dans les vergers. Certains ont même été brûlés par le soleil. En revanche, bonne nouvelle, les prunes sont plus sucrées que les années précédentes. Dans le reste de l'actualité, une nouvelle pensionnaire est arrivée au parc African Safari près de Toulouse à Plaisance-du-Touche. Cette jeune girafe haute de plus de 2 mètres découvre son nouvel environnement. Après une période d'adaptation, elle sera prochainement présentée aux visiteurs. On reste en Haute-Garonne. L'université chrétienne d'été ouvre aujourd'hui ses portes à la maison de la fraternité à Castanet-Tolosan. Jusqu'à vendredi, conférences, tables rondes et temps d'échange se succéderont autour du thème « La paix aura ton visage », un rendez-vous ouvert à tous. En sport, coup dur pour le Toulousain Léon Marchand. Le quadruple champion olympique déclare forfait pour la fin des championnats de France de natation en raison d'une douleur à un adducteur. Des examens complémentaires doivent désormais préciser la nature de sa blessure. Et puis en rugby, le Stade Toulousain continue de célébrer son 4e bouclier de Brennus consécutif. Le club dévoile un maillot en édition spéciale imaginé pour célébrer de ce nouveau titre de champion de France. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Et merci à Clémence Roux, qui est étudiante donc à l'école de journalisme à Toulouse, qu'on retrouvera bien sûr dès demain. Et à 13h, ça sera le grand journal de la rédaction française de Radio Vatican. Nous allons parler d'un sujet aussi qui est dur, celui qui est de l'immigration, grâce avec les travailleurs indochinois, grâce à Philippe Noni, Diego Arabal, dans Un jour, un livre, un auteur.
Présence à Mirande, 104.2.
Un jour, un livre, un auteur, Philippe Noni, Diego Arabal, Philippe Subercaz.
On devrait débuter cette chronique, Philippe Noni, par souhaiter un joyeux anniversaire à Diego Arabal.
Exactement, tout à fait.
Puisque Diego Arabal fait 25 ans cette année, hors taxe.
Hors taxe, oui.
Ah, oui, 25 ans hors taxe.
Mais
les taxes sont lourdes.
La TVA n'est pas à 20% pour lui, je pense qu'elle est plutôt à 50%.
Largement.
En attendant, vraiment un joyeux anniversaire.
Joyeux anniversaire, Diego.
Merci les amis, merci.
C'est dit avec le cœur.
Et merci d'être fidèle à cette émission Un jour, un livre, un auteur. Alors, la semaine dernière, vous avez fait avec l'auteur que vous avez sélectionné.
Lettres aux absentes.
Un devoir de mémoire. On va rester un peu dans ce devoir de mémoire.
On reste dans le devoir de mémoire, tout à fait. Je vous l'avais annoncé, Philippe Subercaz, à l'issue de l'émission de la semaine passée. On reste dans le périmètre de mémoire et on part explorer l'une des pages sombres et méconnues de notre histoire. Cette page, c'est celle de ces milliers de travailleurs coloniaux, ces travailleurs dits de la MOI, la main-d'œuvre indigène, que l'on a fait venir par milliers durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, afin de suppléer le départ des hommes au front. Il fallait des bras dans les usines d'armement pour produire la poudre, les balles, les obus nécessaires à l'effort de guerre contre l'Allemagne. Des milliers de travailleurs indochinois ont donc été réquisitionnés et envoyés à fond de cale en France. On rappelle que l'Indochine française, ça comprenait le Tonkin au nord, la Nam au centre, la Cochinchine au sud, ces trois régions constituant aujourd'hui le Vietnam, et qu'il y avait également deux autres régions qui ont donné aujourd'hui deux autres pays, le Laos et le Cambodge. Tout cela formait l'Indochine française. Ils ont donc été réquisitionnés et envoyés de force à fond de cale en France, à peu près 40 jours de bateau, avec interdiction de monter sur le pont du navire durant toute la traversée depuis l'Indochine française jusqu'au port de Marseille. Ils pouvaient partir du port de Danang ou du port de Saïgon. Un livre parle de cette triste réalité. Colonisés, déplacés, exploités, travailleurs indochinois en Dordogne, 1940-1948, publié en 2025. Vous voyez que c'est un livre très récent, aux éditions Elitis par Pierre Dhomme. Alors, qui est Pierre Dhomme? Pierre Dhomme, précisons-le, c'est un collaborateur du Monde diplomatique, et c'est un spécialiste, donc le Monde diplomatique, qui est un journal de référence, un mensuel, qui sort chaque mois avec des articles de fond, et un spécialiste du passé colonial de la France. Son livre est un ouvrage de référence, c'est une enquête menée en France, mais aussi au Vietnam, où il a retrouvé des survivants qui ont été des travailleurs coloniaux en France durant la Seconde Guerre mondiale, mais il a aussi retrouvé des travailleurs coloniaux qui se sont mariés à des Françaises, qui ont eu des descendants, et qui, comme la semaine passée avec Maïnela Parra, n'ont jamais dit à leurs enfants que par moment ils ont quitté le Vietnam, et qu'ils avaient déjà femmes et enfants. Et certains des descendants ont découvert après la mort de leur père, quand ils ont voulu revenir au Vietnam, qu'en fait, ils avaient des demi-sœurs. Voilà. C'est un livre extrêmement touchant, dont on va parler aujourd'hui. Vous connaissiez cette réalité des travailleurs coloniaux et la MOI, la main-d'œuvre indigène, Diego Arrabal?
J'en avais entendu parler, oui, mais je ne connais pas de façon approfondie, bien sûr. Donc, ce sera un grand plaisir que vous nous éclairiez là-dessus, mon cher ami.
Allez, et je précise que ce livre, je l'ai trouvé, en fait, donc à Bergerac. Il y a eu une exposition, donc puisqu'il y a la poudrerie nationale de Bergerac, vous savez, qui a failli fermer, qui a rouvert, puisqu'aujourd'hui, elle fabrique notamment toute la poudre qui sert à alimenter les obus qui sont envoyés donc pour la guerre en Ukraine, voilà. Et à la poudrerie nationale de Bergerac, donc c'est là que ces ouvriers donc sont venus. Alors pas que là, il faut savoir que durant la Seconde Guerre mondiale, on a beaucoup de poudreries nationales en France. On a la poudrerie d'Angoulême, on a la poudrerie de Bergerac, donc Angoulême en Charente, Bergerac en Dordogne. On a la poudrerie de Sorgues dans le Vaucluse. On a la poudrerie de Saint-Chamas dans les Bouches-du-Rhône. On a une poudrerie également donc dans le Maine-et-Loire. Et toutes ces usines d'armement soutiennent l'effort de guerre. On voit qu'elles sont loin du front, notamment loin du front avec l'Allemagne, pour éviter effectivement les bombardements. Alors, je l'ai vu, pourquoi ? Parce qu'il y a eu une exposition en fin 2025, début 2026, à Bergerac, qui présentait 80 ans après une expo sur les travailleurs indo-chinois. Je précise que quand j'étais gamin, mon père travaillait à la poudrerie nationale de Bergerac. Alors même qu'on apprenait l'histoire du département, je n'ai jamais entendu parler des travailleurs coloniaux qui ont été, durant la Première Guerre mondiale, jusqu'à 25 000, donc plus que la population de Bergerac, et durant la Seconde Guerre mondiale, à peu près un millier. Voilà, aucune info dessus.
Alors, silence radio.
Ah mais silence radio complet, donc c'est assez... Assez étonnant. Je vais vous lire la quatrième de couve, d'ailleurs, vous allez voir, de ce livre. Alors, que vraiment je recommande. Alors, il est à 35 euros. C'est vrai que généralement, on recommande sur Présence des livres qui ne sont pas très chers, mais là, on est vraiment sur un livre à lire cet été, toujours dans le cadre de ce devoir de mémoire. Je vous lis la quatrième de couve. Livre, vous verrez, véritablement intéressant. Mercredi 14 février 1940 à 18h. Un train de marchandises s'immobilise en gare de Bergerac. Des centaines de Vietnamiens en descendent. 500, 600, 700 peut-être. Puis un second train arrive, déversant autant d'hommes, harassés par un périple qui dure depuis plusieurs semaines. Arrachés à leur village en Indochine 2 mois plus tôt, transportés à fond de cale jusqu'à Marseille, ces hommes sont destinés à la poudrerie nationale de Bergerac, la PNB, afin de remplacer la main-d'œuvre française mobilisée au front. Traités en indigènes des colonies, soumis au racisme et à l'autoritarisme de leurs chefs français, souffrant du froid et de la faim, ces travailleurs indochinois vont vivre 10 années d'exil forcé en France. Internés tout d'abord à l'intérieur de la PNB, puis dans un camp à Creys, Creys étant à 2 kilomètres de Bergerac, ils sont ensuite affectés à divers travaux dans la région, à l'issue, effectivement, de la débâcle en 1940. Quel que soit leur emploi, leur salaire est confisqué par les services de l'État. Entre 1940 et 1948, ils sont 4000 au total à être passés par la Dordogne parmi les 20 000 travailleurs indochinois envoyés en métropole pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce livre révèle leur histoire, page sombre du passé colonial de la France. Alors, ce que l'on voit dans les différents chantiers donc, qui vont avoir lieu, c'est qu'à partir de la débâcle de 1940, et il faut occuper ces travailleurs indochinois parce qu'il est impossible de les renvoyer en Indochine pour une raison très simple, c'est que les bateaux qui partent, comme la France est du côté des Allemands, ils sont torpillés ou bombardés par la marine anglaise. Donc on est obligé de les garder. Et puis on se dit, mais qu'est-ce qu'on va leur faire faire ? Et le maréchal Pétain donc déclare la fameuse révolution nationale. Le tout, donc, on va le voir dans des conditions pour le moins contestables. Je vais lire un extrait, vous allez voir en page 89, où on va employer effectivement ces personnes, on va leur confisquer leur salaire, et leurs salaires vont être en fait récupérés par leur hiérarchie. Voilà, c'est une page totalement méconnue, et quand je disais que ça, on ne nous l'a jamais raconté quand j'étais jeune, ben voilà, ça fait partie des pages effectivement peu glorieuses qu'on n'a pas voulu raconter. Alors, je vais vous lire en page 88 et 89, comment les travailleurs indés chinois étaient-ils payés ? Combien gagnaient les requis vietnamiens comme fruit de leur travail ? Entre les salaires perçus par la MOI, la main-d'œuvre indo-chinoise, la main-d'œuvre indigène, pardon, et les jeux d'argent, cela fait dans de nombreuses pages que je parle d'argent sans jamais approfondir le sujet de la rémunération réelle de cette main-d'œuvre vietnamienne. La question revêt une certaine complexité pour plusieurs raisons. D'abord, les salaires en France ont subi de très forts bouleversements au cours de la guerre, puis la libération. Ensuite, une rémunération toute seule ne veut pas dire grand-chose si on ne la compare pas à d'autres rémunérations et au coût de la vie. On retrouve un peu ce qu'on vit actuellement. Hein.
Tout à fait.
Hein? D'autant que les prix en France n'ont cessé de croître pendant la guerre pour exploser à la libération. De plus, dans les archives que j'ai retrouvées, elles sont nombreuses, il y a une confusion permanente sur le sens de l'expression « le salaire des Indochinois ». S'agit-il d'une rémunération que les ouvriers vietnamiens perçoivent réellement, ou ces salaires sont-ils en réalité versés dans les caisses de la MOI, qui, elle, ne cesse d'affirmer dans ces mêmes archives que les Indochinois sont rémunérés? Donc il faut savoir que l'auteur a fait... Tout est conservé dans des archives, donc à Marseille, et donc il a passé des années à éplucher l'ensemble de ces archives pour écrire ce livre. Et il écrit cela. Et comme si tout cela ne suffisait pas, les règles de rémunération de ces ouvriers vietnamiens déjà compliquées au départ n'ont cessé d'évoluer. Partons d'une constatation. Ces hommes se sont retrouvés en arrivant en France dans une situation tout à fait étrange, peut-être même unique. Dépendant totalement du service de la main-d'œuvre indigène, ils ont été privés de toute liberté dans leur rapport avec leurs employeurs. Pendant toutes ces années, en gros de 1940 à 1948, les ouvriers vietnamiens n'ont jamais été libres de choisir leur emploi, jamais libres de négocier leur salaire, ni leurs conditions de travail, jamais libres non plus de rechercher un autre employeur s'ils se considéraient mal payés ou maltraités. Et surtout, et c'est cela le plus spécifique, ils n'ont jamais touché leur salaire. C'est la main-d'œuvre indigène qui les plaçait chez les employeurs, la main-d'œuvre indigène qui négociait les contrats et la main-d'œuvre indigène qui percevait leur argent. Dans les archives, le ministère du Travail utilise pour cela l'expression euphémisée de main-d'œuvre encadrée, qu'elle oppose explicitement, je cite, aux travailleurs libres. Dans une lettre adressée en juin 1943 au directeur du service industriel des poudreries nationales à Paris, l'organe de direction de toutes les poudreries de France, le directeur de la main-d'œuvre indigène Aimé-Louis Grimald, admet que la dénomination salaire, je cite, ne saurait être appliquée à la rémunération demandée aux employeurs pour la mise à disposition de travailleurs indigènes coloniaux. Il explique ensuite le raisonnement sur lequel se base son service pour justifier que c'est à lui que ces salaires doivent être versés et non aux indigènes. Le raisonnement est le suivant, dit Guarabal, tenez-vous bien. Nous avons engagé des frais pour les faire venir et nous devons prévoir un budget pour les renvoyer chez eux. Nous devons payer les salaires du personnel européen chargé de les encadrer. Et nous assurons leur logement et leur nourriture. Sachant, je le précise, hein, qu'ils étaient logés dans des endroits qui n'étaient ni chauffés, où il n'y avait pas d'eau courante, et donc dans des conditions l'hiver qui étaient assez extraordinaires. Et nous assurons leur logement et leur nourriture. Tout cela coûte très cher, dit en substance Aimé-Louis Grimald. Et en plus, depuis le premier jour de leur départ d'Indochine, leurs femmes, s'ils en ont une, perçoivent une allocation familiale qui augmente selon le nombre d'enfants, s'il y en a. Enfin, pour être complet, la main-d'œuvre indigène verse à chaque ouvrier, tous les jours de l'année qu'il travaille ou non, une allocation journalière destinée à couvrir ses petites dépenses lorsqu'il sort en ville le dimanche. Une sorte d'argent de poche, explique Grimald. Son montant, 1 franc par jour. En février 1940, lorsque les travailleurs indochinois commencent à travailler à la PNEB, la MOI encaisse, en échange de cette mise à disposition de main-d'œuvre ainsi que Grimald s'exprime, 50 francs par jour ouvrés pour 8 heures de travail par jour, soit 1250 francs par mois. Le 1 franc d'allocation journalière, 31 francs par mois, représente donc 2,5% du salaire mensuel qu'ils touchent. Donc ils touchent 2,5% de leur salaire, contrairement aux autres travailleurs qui, eux, touchent 100% effectivement de leur salaire. Ceci dit, en 1943, au moment où Grimald écrit sa lettre, les salaires perçus par la MOI sont passés à 72 francs par jour ouvré, tandis que l'allocation journalière n'a pas bougé. Elle représente alors 1,6% des revenus générés par les ouvriers vietnamiens. En 1945, lorsque les salaires augmentent brusquement face à son inflation, à une inflation dramatique, la MOI perçoit au minimum 120 francs par travailleur, mais l'allocation journalière reste toujours inchangée. Elle ne représente plus que 1% du salaire. C'est-à-dire, on est passé de 2,5% du salaire à 1% du salaire. On comprend pourquoi cette page est effectivement sombre.
Il vaut mieux la terre.
Ouais. Il vaut mieux la terre. Ouais, vous voyez, on en a parlé que 80 ans après Diego Arrabal. Regardons maintenant l'allocation familiale. J'ai mentionné dans le premier chapitre que 57% des 19 750 requis étaient mariés, soit 11 260 hommes. En 1939, le gouvernement général promet à ces 11 260 épouses qu'elles percevront pendant toute l'absence de leur mari 3 piastres par mois. Alors aujourd'hui, c'est le dong, au Vietnam, c'est plus le piastre. 3 piastres par mois, soit 30 francs selon le taux de change de l'époque. Les mères percevront 0,3 piastres, 3 francs supplémentaires par enfant. On a vu aussi que 5200 enfants environ avaient été laissés au pays. La charge mensuelle que ces femmes et ces enfants représentent sur le budget de l'État, et donc finalement sur celui de la MOI, s'élève ainsi à 350 600 francs par mois. Répartis sur les 19 750 requis, cela revient à 17 francs par mois, soit un peu moins de 60 centimes par jour. Comparé aux 50 francs, puis 72 francs, puis 120 francs que chaque travailleur indochinois rapporte à la MOI, il pourrait sembler presque indécent de la part de Grimald, dont on parlait avant, le directeur des poudreries, de mentionner une telle charge dans une correspondance destinée à justifier, aux yeux de son correspondant, le montant du salaire qu'il lui réclame. Il n'ose même pas d'ailleurs parler d'une ultime charge assumée par la MOI, la constitution pour chaque ouvrier d'une épargne destinée à lui permettre de redémarrer sa vie lorsqu'il sera de retour chez lui. 50 centimes, montant 50 centimes par jour payés en piastre au moment du retour en Indochine. 8 ans plus tard, lorsque ces hommes rentreront chez eux, les sommes accumulées ne représenteront que des poussières balayées par la vague de l'inflation. Voilà, ça c'était pour présenter ce premier extrait. Et je le disais au départ, donc on voit effectivement qu'on les appelait la MOI, la main-d'œuvre indigène. Mmh. Vous savez, Diego Arrabal, qu'en 1937, on a eu une exposition coloniale en France. Et lors de cette exposition coloniale, on a exposé des indigènes.
Mmh. Oui, je sais.
Voilà.
Hélas.
Voilà. Et il faut savoir que pour préparer cette émission, j'ai regardé les chiffres, le nombre de visiteurs. Il y a eu 30 millions de visiteurs. Mmh. 30 millions de visiteurs qui sont venus du monde entier pour voir, entre autres, des indigènes, les indigènes que la France représentait. Donc on avait monté un village. Et les gens venaient un peu comme s'ils étaient aux zoos.
C'est comme aux zoos, exactement.
Voilà.
Oui.
Voilà. Mmh. Et c'est pour ça. Je fais le lien maintenant avec ces relents de supériorité que pouvait avoir effectivement donc la race blanche dans les déclarations de certains militaires qui encadrent ces jeunes Indochinois. Et l'un d'entre eux fourmille d'idées et le fait savoir par écrit à la hiérarchie du régime de Vichy. C'est en page 107 du livre de Pierre Dom, « Colonisés, déplacés, exploités, travailleurs Indochinois en Dordogne, 1940-1900 ». 48. Je vais lire cet extrait, vous allez voir, c'est vraiment un livre passionnant. Moi, je me suis régalé à le lire, j'ai découvert effectivement plein de choses. Comme je l'ai expliqué, tous ces Vietnamiens ont été envoyés en France pour travailler dans les usines d'armement. En juin 1940, l'armée française est défaite et les usines s'arrêtent. Que faire de ces hommes en attendant de les rapatrier? C'est l'été, il fait chaud. Et l'idée de les utiliser à curer des rivières germe très rapidement dans l'esprit de certains encadrants français. En juillet 1940, le lieutenant de Moreira, commandant de la 34e compagnie stationnée à Angoulême, je rappelle qu'il y avait une poudrerie également, donc à Angoulême, qui aujourd'hui a été dépolluée, qui n'existe plus, prend contact avec le sous-préfet de Cognac, ainsi qu'avec plusieurs maires des localités du département. Rapidement, plusieurs dizaines de travailleurs indochinois se retrouvent les pieds dans l'eau à nettoyer deux affluents de la Charente, l'Antenne et le Charentonneau. Dans un rapport destiné à ses supérieurs, Moreira vante ce type, je cite, de travaux d'utilité publique où aucune concurrence de main-d'œuvre avec les ouvriers français n'est à envisager. Deuxième argument qui reviendra très souvent dans les archives, nos anamites sont particulièrement habitués à travailler dans les rizières, donc dans l'eau.
C'est QFD.
Voilà, et franchement, quand on lit ce livre,
on constate, en fait, c'est ce que vous dans les choix que vous faites de texte, on voit bien le fonctionnement du racisme, quoi, où je veux dire, il y a une supériorité des Blancs par rapport aux autres. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on occulte complètement dans le discours sur les colonies françaises, on occulte totalement le fait que on n'est pas avec des citoyens partout. C'est-à-dire que l'Empire français à l'époque, au sens de colonie, on a les Français et puis on a les indigènes.
Les indigènes.
Qui ont les mêmes devoirs que les citoyens français, mais pas du tout les mêmes droits.
Ah, pas du tout les mêmes droits, non.
Et je pense que là,
et notamment le droit de grève, hein, ils avaient interdiction de
oui,
faire...
Oui, bien sûr, droit de grève, mais même dans la façon d'être traité ou autre. C'est-à-dire que politiquement, effectivement, ils avaient pas du tout, ils étaient pas du tout citoyens. Ils étaient des citoyens de seconde zone.
Et c'est vrai que tout cet aspect-là va changer, puisque le 2 septembre 1945, c'est la reddition du Japon. Le même jour, Ho Chi Minh déclare l'indépendance du Vietnam. Mmh. Et le même jour, donc en France, ben, ça va très rapidement, car les travailleurs donc vietnamiens apprennent que Ho Chi Minh a déclaré l'indépendance du Vietnam. Ils se mettent en grève, sauf qu'ils n'ont pas le droit.
Mmh.
Et on va le voir après, vous allez voir que il y a une véritable répression qui va se mettre en place, je vais en parler un peu plus loin, et vous allez voir notamment sur la façon dont on va utiliser ces personnes. Notamment un point sur l'emploi des travailleurs coloniaux dans le cadre de la révolution nationale, pardon, voulue par le maréchal Pétain. Donc il y a des chantiers, pardon, qui présentaient un intérêt d'un point de vue agricole qui doivent être mis en œuvre. Hein, c'est ce qui est prévu dans le cadre de cette loi. Et en voici un exemple sur la façon dont les travailleurs indochinois ont été taillables et corvéables à souhait. Je vais le lire, c'est en page 108, c'est en fait un chantier qui s'est fait, qui s'appelle le chantier des bonnes. Et je le dis, ça se déroule dans le Périgord, donc si on a des auditeurs et des auditrices qui vont dans le Périgord en vacances cet été, ben, ça serait intéressant qu'ils aillent entre Bergerac et Sarlat, parce que ben, les Bonnes, c'est une rivière qu'à un moment donné, il a fallu curer, parce qu'ils avaient l'intention, vous allez voir, de planter du chanvre. Et en fait, vous allez voir à travers ce que je veux dire, que les propriétaires, en fait, ce qui les intéressait, c'était pas tellement de curer les champs pour faire du chanvre, c'est que si on curait les rivières, les champs prenaient de la valeur, mais ils avaient absolument pas l'intention, effectivement, forcément, d'y planter du chanvre. Donc, il y avait des intérêts très divergents. Donc, la révolution nationale voulue par Pétain, c'est en page 108. Le premier élément déclencheur intervient le 16 février 1941 par le vote d'une loi qui donne au préfet le pouvoir de décider l'exécution de travaux avec une participation financière de l'État lorsque ceci, je cite, présente au point de vue agricole un caractère d'urgence ou d'intérêt général. Curage de rivières et assainissement de marécages font partie de la liste des travaux éligibles à une prise en charge par l'État. Cette loi s'inscrit dans la politique de la révolution nationale prônée par le régime de Vichy, dont un des piliers, le retour à la terre, consiste à réhabiliter des terres abandonnées afin d'y faire renaître d'anciennes cultures oubliées. Je cite le maréchal Pétain, « La France redeviendra ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, une nation essentiellement agricole. Elle restaurera les antiques traditions artisanales », clame le maréchal Pétain dans un discours prononcé à Tulle le 20 avril 1941. Le projet des Bonnes coche toutes les cases, remettre en usage des sols abandonnés et faire renaître un artisanat disparu, celui du chanvre. Alors l'objectif c'est quoi? C'est que ben, l'Allemagne occupe le nord de la France, les manufactures sont touchées, ben, on se dit, ben, dans la partie Bergerac était en zone libre, et ben, on se dit, ben, tiens, on va remettre des usines de chanvre et on va monter un artisanat donc, pour pouvoir effectivement développer... Développer cela, bon, c'est... Voilà.
Mais c'est du chanvre local, c'est pas du chanvre indien.
Non, c'est du chanvre local, voilà, je te précise. Faites bien de faire la remarque, Dubois Rabal. S'il y en a qui veulent passer des vacances cet été en se disant qu'ils pourront trouver des pieds de chanvre, non, pas du tout. C'est pas doudou, ça. Voilà un livre, en tous les cas, donc, à lire, hein, qui évoque aussi l'indépendance du Vietnam, hein, je vous le disais à l'instant, donc décrété par Ho Chi Minh le 2 septembre 1945, mais aussi, je vous le disais tout à l'heure, Dubois Rabal, le mariage de Vietnamiens avec des Françaises, celles-ci découvrant la mort de leur mari, que certains donc avaient été arrachés à leur village, elles le savaient un peu, mais surtout qu'ils avaient déjà des enfants et une femme. Et donc je vous laisse imaginer la rencontre des demi-frères et des demi-sœurs. C'est vraiment un livre à découvrir parce que l'auteur est parti au Vietnam pour rencontrer donc
des descendants,
ouais. Certains qui sont revenus donc là-bas et puis qui leur expliquent. Alors notamment, il y a une anecdote qui est très savoureuse. Il y a un des Indochinois qui se marie à une Française et il explique qu'un jour, donc comme il est traducteur, il arrive à la poudrerie nationale de Bergerac. Il y a des femmes qui ont été réquisitionnées, voilà, comme c'était lors de la première guerre mondiale, pour fabriquer de la poudre. Et d'un seul coup, ces femmes l'attrapent. Et il raconte cette anecdote savoureuse. Elle le déshabille parce que elle voit qu'il est différent des autres pour voir s'il est fait comme les autres. Et il explique, donc il le raconte en rigolant. Hein, il dit que donc Pierre Dom le raconte que quand il lui dit ça, il lui raconte cette anecdote savoureuse en rigolant. Et il dit, il voulait juste voir si j'étais fait comme les autres. Elles se sont sauvées en courant et en riant. Voilà, c'est vous dire à un moment donné toute l'image qu'il peut y avoir. Et il a retrouvé donc en Dordogne aussi des anciens hein, qui leur ont parlé. Hein. On le voit à travers, vous voyez, alors on est à la radio, il hein, y a pas de photos, mais il y a tout un tas de photos dans ce livre qui sont passionnantes sur en fait eh ben, des photos qui ont été prises. Et puis on voit qu'il y a eu des mariages, et par moments c'était pas le cas. Et donc la MOI s'en inquiète. Tant qu'il y a des rencontres, il n'y a pas de souci. Le problème c'est quand une femme tombe enceinte et puis qu'elle n'est pas mariée. Ce qui plus est avec un indigène. Donc là, il faut faire en sorte effectivement de prévoir que le scandale n'existe pas. Voilà, c'est un livre vraiment magnifique qui interroge beaucoup, qui parle après effectivement notamment aussi de l'entrée dans la résistance des Vietnamiens. Ça, on le connaît peu. On a parlé la semaine dernière, vous vous souvenez, des Espagnols qui sont rentrés dans la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu aussi des Indochinois. Il y a une photo notamment à Bergerac où on voit lors de la libération de Bergerac en août 1944, on voit qu'il y a un soldat vietnamien qui défile également avec ses hommes, donc qui était rentré dans la résistance. Et c'est une page totalement méconnue. Donc, j'invite les gens à le lire comme ça. Comme je sais que la Dordogne est un département, le Périgord est un lieu de villégiature très apprécié. C'est aussi, dans cette émission, de dire aux gens, écoutez, si vous allez en vacances là-bas, lisez ce livre pour porter un autre regard.
Et découvrir des choses que... Ouais. Qu'on cache dans le sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est pas qu'on les cache, mais c'est qu'on est aveugle à l'existence de ces moments-là. On préfère une histoire fédératrice et lisse,
voilà.
Sans tenir compte de la réalité et de la violence qu'il y a pu avoir à certains moments.
Voilà, ouais, et des nuances, effectivement, qu'il peut y avoir. Et je me souviens, moi, quand j'étais gamin, à l'école à Bergerac, j'avais une copine en classe, en CE2, que j'ai retrouvée en CM2 et en 4e, qui était donc asiatique. Et je ne me suis jamais posé la question de savoir d'où elle venait. Et en fait, quand j'ai lu ce livre, je savais où elle était, je l'ai contactée. Et elle m'a dit qu'effectivement, elle était la descendante donc, d'un travailleur indochinois, son grand-père, qui est resté. Et je ne lui ai jamais posé la question quand j'étais jeune. J'aurais attendu 50 ans pour le faire.
Ben vous n'étiez peut-être pas conscient de ça.
Non, puis je pense
que... Ça me fait penser à cette question qu'on pose souvent à des enfants. Est-ce qu'il y a des étrangers dans ta classe? Et les enfants qui répondent, non, il y a d'autres enfants.
Voilà, ben c'est exactement ça. Et je me suis dit que c'était la meilleure des choses. C'est pour ça un très bon livre par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Subercase, sur le devoir des mémoires, colonisés, déplacés, exploités, travailleurs indochinois en Dordogne, de Pierre Dom. Je rappelle que c'est un... journaliste donc qui collabore au Monde Diplomatique, hein, qui est quand même un journal de référence, un mensuel de référence, donc publié aux éditions Elitis. On vous le recommande si vous allez passer des vacances en Dordogne, très 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 beau département, notamment entre Bergerac et Sarlat, hein, en allant vers le Périgord noir. Lisez ce livre et vous aurez une partie de cette histoire méconnue de la Dordogne, dont on commence à parler aujourd'hui, puisque ce livre est sorti en 2025. 80 ans après, et que l'exposition donc sur les travailleurs du chinois a été présentée à Bergerac en décembre 2025. Elle devait durer qu'un mois. Elle a eu tellement de succès
qu'elle a été prolongée.
Ouais.
Ah, c'est bien ça.
C'est bien ça. Ça prouve que
ça intéresse.
Voilà. Que la mémoire a de l'avenir. C'est joli, ça, comme phrase, pour terminer.
C'est très beau. Hein, c'était la mémoire de l'avenir.
Non, mais je ne l'avais pas prévu, en plus. Vous voyez, c'est spontané, quoi. C'est une fulgurance, quoi. C'est la mémoire de l'avenir.
C'est beau.
Je vous autorise à la réemployer, Philippe Subercase.
Présence à Axe-les-Thermes. 92.7.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
La fraternité Saint-Pidis acte le schisme avec Rome lors d'une messe célébrée dans la matinée à Écône en Suisse. Quatre